Mesdames et messieurs, je vous invite à voyager dans le temps vers les années 1936, lors des Jeux Olympiques de Berlin. Dans ce contexte tumultueux, marqué par la montée des régimes nazis et ses idéologies oppressives, un homme se dresse courageusement contre la haine et les discriminations, Jesse Owens. Au travers de cette figure de légende, nous aborderons plusieurs thèmes, son parcours, ses exploits et leur portée dans le contexte où sévit encore la ségrégation aux États-Unis et où l'Allemagne d'Hitler veut se servir des JO pour glorifier le nazisme, voulant en faire un instrument de propagande. Bonne écoute à vous.
My name is Jesse Owens.
Jesse Owens, né le 12 septembre 1913, est un ancien petit-fils d'esclave. Son enfance fut difficile. Il courait 4 fois par semaine, 4 km, juste pour aller à l'école. Il travaillait dans les champs, où il portait parfois jusqu'à 5 kg de coton. Cela lui forgea son mental de compétiteur. Scolarisé à la Junior High School de son quartier, l'école élémentaire de Bolton, il découvre sa passion pour la course à pied grâce à plusieurs activités professionnelles, travaillant notamment en tant que livreur dans une épicerie et dans une usine de chaussures.
En 1920, les champs de coton sont inondés. Les récoltes sont perdues. La famille Owens est obligée de migrer vers le nord, dans l'Ohio. 2 ans plus tard, ils finissent par franchir les 1000 km qui les séparent de l'Eldorado. Un nouveau foyer, un nouveau travail pour son père, et Jesse ira à l'école. Un jour, il rencontre un entraîneur du nom de Charlie Riley, qui dès le premier coup d'œil, perçoit le talent du jeune garçon. Il lui donne rendez-vous chaque matin à 5 heures pour l'entraîner. À l'âge de 14 ans, son entraîneur lui annonce qu'il devrait rencontrer un vrai champion. C'est à ce moment que sa vie bascule. Cet homme qui changea sa vie, c'est Charlie Padlock, médaillé d'or olympique. Cet homme lui a fait repousser ses limites par des entraînements acharnés. Grâce à ses instructions et ses contacts, il put l'envoyer à la High School d'Ohio. Il devint ainsi le premier homme noir athlète international jusqu'à être propulsé aux JO de Berlin en 1936.
Perfect.
Jesse Owens est connu aujourd'hui pour avoir remporté 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. En plus d'être un grand athlète, à cette époque, sa couleur de peau était un problème dans le monde du sport. Malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer pendant son histoire, il n'a jamais arrêté de croire en ses rêves. Par son exploit en 1936, Jesse Owens a prouvé que le talent est plus fort que la couleur de la peau. Il est une source d'inspiration, encourageant des générations à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles.
En 1931, le Comité international olympique décide de réattribuer l'accueil des Jeux olympiques à Berlin. Adolf Hitler, devenu chancelier de l'Allemagne en 1933, voit dans ces Jeux olympiques un tremplin pour présenter la suprématie de l'Allemagne et ses idéologies de la supériorité de la race aryenne au monde entier. Hitler ordonne à l'architecte Werner March d'établir les plans du nouveau Olympiastadion. Inspiré par le Colisée de Rome, il sera grandiose.
L'Allemagne dépense 42 millions de marks pour ériger une enceinte de 110 000 places. Le stade est un monument majeur conçu pour montrer la puissance du parti nazi au reste du monde. Ces Jeux olympiques, d'autant plus populaires qu'ils coïncident avec la naissance de la télévision, pour la première fois, des centaines de milliers de téléspectateurs suivront les grands moments de ces Jeux olympiques sur le petit écran. Alors que selon la tradition, les JO devraient être un divertissement pour le peuple, Hitler se servira de cet événement pour son intérêt personnel.
Ce furent les premiers Jeux olympiques retransmis à la télé et de nouvelles techniques ont vu le jour. Le problème est que les athlètes allemands n'ont pas été aussi performants que ne l'espérait Hitler.
Des pigeons vont partir dans un joyeux et symbolique envol pour annoncer au monde l'ouverture des Jeux olympiques.
1936, Jeux olympiques de Berlin. Adolf Hitler, alors fureur de l'Allemagne nazie, organise les JO dans le but de faire la propagande de leur prétendue supériorité raciale.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zum Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car Jesse Owens, athlète noir, de grand talent, va contrecarrer ses plans. En attirant toute l'attention sur lui, par ses exploits aux épreuves de saut en longueur, sprint et relais.
Wir schwören bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten.
Hitler, offensé par les records de Jesse Owens, va refuser de lui serrer la main alors qu'il a gagné 4 médailles d'or olympiques. La victoire d'Owens va marquer un échec dans sa propagande. À son retour en Amérique, le champion n'est pas pour autant mieux considéré. Il va se voir refuser l'accès à la Maison Blanche
ainsi que l'entrée normale pour les Blancs au restaurant. Ces victoires aux JO ne lui auront pas apporté gloire et respect au sein de cette Amérique blanche.
Owens tout seul ! Metcalf revient ! Owens ! Owens, l'homme le plus vite du monde !
Jesse Owens est connu aujourd'hui pour avoir remporté 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. En plus d'être un grand athlète, à cette époque, sa couleur de peau était un problème dans le monde du sport. Malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer pendant son histoire, il n'a jamais arrêté de croire en ses rêves. Par son exploit en 1936, Jesse Owens a prouvé que le talent est plus fort que la couleur de la peau. Il est une source d'inspiration, encourageant des générations à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles.
Hitler et son parti nazi ont utilisé les JO de Berlin en 1936 pour montrer au monde entier la force de la race aryenne. Les arbitres avantageaient les coureurs allemands, blonds aux yeux bleus, au détriment des autres participants, allant même jusqu'à disqualifier complètement les sportifs juifs, notamment dans le film La couleur de la victoire, où le Führer interdit à deux coureurs de l'équipe américaine de concourir parce qu'ils sont juifs. De plus, à Berlin, il y avait le plus grand stade à cette époque pour prouver au monde la puissance de l'Allemagne.
Nous avons vu le film La couleur de la victoire, qui parle de Jesse Owens. Il a fait vivre la victoire des valeurs olympiques.
Et les sélections olympiques vont bientôt avoir lieu ?
Oui, monsieur, dans un peu moins de 5 semaines.
Oh, j'imagine que vous espérez vous qualifier et y participer ?
Bien sûr. Je veux dire, oui, monsieur.
Même sous le régime d'Hitler ? Au nom de monsieur White et de son organisation, ainsi que de la communauté noire à travers l'Amérique, j'espère que vous n'irez pas.
Le respect. Respect des règles, des autres et de soi-même. Respect de l'adversaire incarné, ici par un Allemand qui aide, encourage et félicite son adversaire de couleur, Jesse Owens.
L'excellence, qui consiste à toujours donner le meilleur de soi-même, tout faire pour atteindre ses objectifs. Dans le film, on voit qu'il a un bon niveau et qu'il continue à s'entraîner malgré le regard et les critiques des autres. Il se surpasse, fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir les médailles d'or et battre des records mondiaux.
L'amitié. Dans un extrait, lors des qualifications du saut en longueur, l'athlète allemand Luz Long aide Jesse Owens en plaçant un foulard près de la piste pour lui donner un repère de prise d'élan.
Attendez, on ne voit pas ça tous les jours. Long serait en train d'indiquer à Owens pour prendre son impulsion.
Jesse réussit son saut. Après la remise des médailles, Luz Long lui propose de faire un tour d'honneur, en se tenant par le bras sous l'acclamation des spectateurs. Une amitié improbable, car l'un faisait partie du régime nazi et l'autre était de couleur. Ils étaient donc ennemis, mais leur amitié a tout de même duré longuement.
Ce qui se passe entre les deux athlètes, c'est l'esprit de solidarité, l'entraide et le fair play, représentant les valeurs du sport et de l'olympisme. Respect, excellence, amitié.
C'était une belle bataille.
Je t'en prie, fais ton dernier saut, s'il te plaît.
Que se passe-t-il ? La compétition est terminée, mais l'Allemand Long semble partager le même appétit que la foule de Berlin. Voir ce que l'incroyable Owens peut nous offrir de mieux. C'est dire à quel point l'esprit sportif règne entre ces deux athlètes aujourd'hui.
Leni Riefenstahl était une réalisatrice allemande controversée, principalement connue pour ses documentaires glorifiant le régime nazi, en particulier son chef-d'œuvre « Triomphe de la volonté ». Née en 1902, elle a d'abord été danseuse avant de se tourner vers le cinéma. Son utilisation innovante de la caméra et du montage a marqué l'histoire du cinéma, mais son association avec le régime d'Hitler a terni son héritage.
Malgré son talent artistique, elle reste une figure controversée, critiquée pour son rôle dans la propagande nazie. Après la guerre, elle a été déclarée persona non grata et a passé des décennies à se défendre contre les accusations de complicité avec le régime. La complexité de son héritage soulève des questions éthiques et artistiques sur le pouvoir du cinéma et la responsabilité des cinéastes dans la représentation de l'histoire.
Les territoires numériques éducatifs dans Est-ce que tu piges aujourd'hui ? On vient d'écouter une production réalisée par les élèves du collège Simone Veil de Montpellier avec leur prof d'histoire comme rédac-chef de cette émission pour accompagner un projet de web radio. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour, je suis Thibault Lemoine, enseignant d'histoire-géographie au collège Simone Veil, comme ça a été cité.
Alors déjà, premier retour de cette première écoute du point de vue des élèves qu'on n'a pas réenregistré sur leur vécu de ce temps d'écoute collective. Il s'avère que peu ont l'impression d'avoir fait de l'histoire.
Pourtant, c'est vraiment au cœur du programme. Donc le contexte, c'est quand même les Jeux Olympiques de 2024. Mais à chaque fois, justement, on s'est appuyé sur les cours d'histoire pour qu'ils puissent contextualiser, en fait. Ils ont réutilisé aussi pas mal de notions, de vocabulaire étudié en cours, ainsi que, bien entendu, les repères, en fait.
Alors, on a travaillé, du coup, ensemble sur ce travail d'écriture. Travail d'écriture radiophonique des phrases courtes. Ponctuation plutôt bien respectée. La source, c'est quand même quelque chose d'encore un peu compliqué.
Alors c'est compliqué puisque nos élèves ont de très mauvaises habitudes. Hein. Enfin, on le voit aussi au quotidien à travers le travail scolaire qu'on leur demande. Ils font souvent du recopiage intégral d'Internet. Donc là, c'était vraiment intéressant justement parce qu'il a fallu reprendre plusieurs fois les textes, leur faire corriger, réécrire. Puis après, ils les ont dit à voix basse, puis à voix haute. Ils se sont entraînés pour qu'on puisse avoir le meilleur résultat possible.
Est-ce qu'ils ont conscience de la radio comme média de l'histoire sur cette période de l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale ?
Alors je pense pas parce que la plupart n'écoutent pas la radio. Je crois qu'on avait déjà fait un petit sondage, à part quelques exceptions dans la classe. Il y en a très peu qui suivent régulièrement en fait, des émissions de radio. Le problème, c'est qu'ils s'informent surtout par les réseaux sociaux, en fait. Voilà, et au niveau historique, il y a quand même pas mal de doutes sur la véracité de ce qui est raconté. Hein.
Et la radio pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fameux chapitre sur De Gaulle et la BBC ?
Alors oui. Ils ont, en fait, dans le cadre de mes cours, ils ont étudié justement les deux discours radiodiffusés, celui du 7 juin 1940 et celui du 18 juin. Et donc, ils ont fait une étude comparative, en fait, entre les deux personnages. Donc, on s'est beaucoup intéressé aussi à la radio. Ils ont eu aussi le bilan, en fait, d'un historien qui a fait un livre sur cet ouvrage où il s'est intéressé à toutes les émissions de la BBC. Donc, c'était l'occasion, justement, de montrer que c'est une véritable arme dans cette Seconde Guerre mondiale, la radio. Tous les moyens qui étaient mis en place aussi pour empêcher, en fait, cette contre-propagande de se diffuser en France. Mais aussi, ce qui était intéressant, c'était la façon il n'y avait pas d'onimat à cette époque, mais à travers l'analyse justement de la consommation électrique, on avait quand même une idée justement de combien de Français à cette époque écoutaient Radio Londres.
Alors, écouter de la radio comme source d'information pour aborder l'histoire, comme de la lecture de textes, de l'iconographie, des photos. Il y a aussi le film, on entend dans l'habillage des extraits des couleurs de la victoire.
Oui, un film qu'ils ont vu en fait avant les vacances de décembre. Donc c'est une section sportive, la classe. Donc ils ont été particulièrement sensibles. Alors peut-être moins la partie historique, plutôt aux records en fait qui ont été réalisés par Jesse Owens. Là, on les a sentis un peu plus vibrer en fait dans l'amphithéâtre du collège. Mais c'est surtout par le biais du film, en effet, qu'on les a fait accrocher sur ce personnage et cette période.
Alors, ils ont été très séduits par le rendu, justement, du travail d'habillage mené par ma collègue Lucille sur ce travail de mise en son qui rend les émissions plus supportables. Du coup, j'épargne aux oreilles des auditeurs la première émission qui est pourtant la mieux construite. Selon moi, on va en parler. Vous en pensez quoi des productions, du résultat des productions du travail de vos élèves ?
Je suis très satisfait, mais je sais que ça vient pas de nulle part, puisqu'il a fallu beaucoup de travail, comme je vous disais, beaucoup de séances. Parfois, j'avoue que j'ai perdu un petit peu patience, puisque ça a été quand même beaucoup de travail de réécriture à chaque fois. Après, je suis satisfait du travail final. Je trouve que ça les met très en avant. Je pense que c'est très bon pour l'estime de soi, comme on dit. Moi, je voudrais bien continuer, justement, ce projet. d'autant plus qu'ils ont pris quelques automatismes maintenant, et ils savent mieux quels sont les enjeux à chaque fois de l'écriture radiophonique, par exemple. Puis avec le briefing qu'ils ont eu aujourd'hui, en plus, il ne ferait que s'améliorer.
On vient d'entendre l'émission consacrée à Jesse Owens. Est-ce que vous pouvez me présenter la première émission sur laquelle vous avez travaillé et qui a servi un peu de modèle en termes de construction, de chapitrage ou de format d'émission ?
Alors, la première émission était consacrée plus précisément à la Première Guerre mondiale, car en fait, moi-même, je l'ai découvert, je m'étais pas trop intéressé à l'histoire du sport, mais en fait, c'est vraiment la Première Guerre mondiale, et notamment l'épisode de la guerre des tranchées qui a en fait amené la démocratisation du sport, la découverte de nouvelles pratiques sportives, notamment aux soldats.
Donc, chaque élève, pour resituer auprès de nos auditeurs, avait choisi un sportif avec une discipline sportive à valoriser. Beaucoup d'efforts pour valoriser les femmes.
Oui, c'est une dimension indispensable puisque nous avons bientôt les JO 2024 de la parité également. Donc il fallait que ça soit également un thème qui transparaisse à chaque fois dans les émissions.
Donc l'idée d'associer l'actualité avec l'histoire moins récente mais qui reste de l'histoire contemporaine pour les historiens, c'était important ?
Bien sûr, parce qu'on leur explique constamment en classe qu'on ne vient pas nulle part, que le présent, si on veut le comprendre, il faut aller chercher dans l'histoire, justement.
C'est quoi le programme d'histoire ?
Alors, c'est surtout à travers le projet avec un professeur de PS, Madame Revel, que j'en profite pour citer, qui s'intéresse déjà beaucoup aux valeurs en fait sportives. Et comme c'est une classe, une section sportive, on voulait faire coller ça justement avec le programme du XXe siècle. On n'a pas balayé tous les JO, d'accord ? On s'est vraiment intéressé en fait à la période qui correspond au programme scolaire de 3e, c'est-à-dire tout le XXe siècle.
Alors vous parlez de la prof de sport, il y a aussi les documentalistes scolaires très engagés dans les territoires numériques éducatifs. L'accompagnement d'ailleurs au travail d'écriture, si mes souvenirs sont bons. 3 heures de temps d'écriture en classe sur la première, 2 heures parce qu'on a essayé aussi de challenger les élèves sur de la compétition et de la performance. Ça fait beaucoup. Quel est ce travail en binôme avec documentalistes scolaires et puis vous sur l'histoire ?
Alors, il y a tout un travail de préparation en fait pour chacun des thèmes qu'on a pu identifier. Et surtout, Nathalie Benito est intervenue pour vraiment qu'on rentre dans l'histoire de l'angle journalistique pour qu'au lieu de faire de simples cours d'histoire radiophonique, ça soit en fait vraiment quelque chose de plus personnel, enfin de quelque chose que les élèves s'approprient davantage en fait. Voilà. Donc à chaque fois, on leur a proposé différents angles possibles. Et en général, ils ont constitué les groupes en fonction de ce qui leur plaisait le plus.
Des ressources aussi livres. Je regarde toujours les étagères du CDI, toujours particulièrement bien fournies. Quels étaient les livres qui, selon vous, ont apporté le plus d'infos aux élèves ou accompagné ce parcours d'écriture des élèves ?
Alors, ça concerne surtout les Jeux Olympiques de Berlin. Et c'est vrai qu'à cette occasion, justement, le CDI a fait l'acquisition de nombreux ouvrages qui ont servi aussi de base à la constitution des articles radiophoniques.
Est-ce qu'on peut aborder le travail d'histoire locale, comme ça peut être le cas, avec des infrastructures sportives en proximité, ou l'idée d'utiliser la web radio justement pour se déplacer, pour pourquoi pas faire du commentaire sportif, ou des visites de lieux de mémoire, puisqu'en tant que prof d'histoire, ça peut vous intéresser aussi ?
Tout à fait. Là, on travaille sur un nouveau thème qui est surtout lié à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au Front populaire. Et donc, il y a des noms qui reviennent, justement. Jean Bouin, on en parlait, mais aussi Léo Lagrange. Et ils se rendent compte, en fait, que même les lieux qu'ils fréquentent pour le sport, en fait, ils sont marqués d'histoire. Ils font référence à des personnalités importantes. Il y a aussi un aspect un peu moins positif, on va dire, c'est que ils l'ont découvert à travers ce nouveau chapitre, on va dire. C'est que les gymnases, les grands lieux sportifs ont parfois servi aussi de lieux d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est aussi des lieux qui évoquent en effet des tragédies passées et qui feraient partie aujourd'hui du devoir de mémoire.
Sur ce travail rédactionnel qui a été fait avec votre classe cette année, 2 émissions sur les 3 initialement prévues. On a consacré ce dernier temps à ce temps d'écoute collective en vue de progresser ou prendre de bonnes habitudes par la suite. Comment vous séquencez ? Qu'est-ce que vous aviez imaginé faire au départ en termes de production ?
Alors moi, je suis toujours trop ambitieux, c'est mon principal défaut, on va dire. Donc moi, je m'imaginais qu'on allait arriver jusqu'au JO de 2024. Mais c'est vrai que quand on s'est rendu compte que le travail d'écriture était un peu laborieux, donc on a préféré qu'ils fassent les choses bien, déjà du départ, même si ça prenait du temps, que vraiment ils aient acquis des compétences plus solides afin de pouvoir envisager avant d'aller plus loin.
Est-ce que l'année prochaine, vous partiriez sur le même séquençage ou sur carrément autre chose ?
Non, je pense que je vais varier. On ne va pas rester toujours braqué sur le sport. Je pense qu'il y a plein de choses à leur faire faire grâce notamment à la web radio au collège. Voilà, enfin, notamment j'avais quelques activités que je faisais faire les années précédentes où ils s'enregistraient avec leur téléphone, mais là c'est quand même autre chose, quoi. Enfin, je pense que ça va être beaucoup plus formateur, notamment pour les élèves, d'avoir cet outil dans le collège.
Sur la web radio, vous, sur cette année d'apprentissage, puisque vous avez été aussi élève pour le CLEMI dans le cadre de la mise en place de ce dispositif, il faut apprendre à faire de la radio. Ça s'est passé comment ?
C'est très intéressant, en fait, puisque contrairement aux jeunes qui écoutent assez peu la radio aujourd'hui, je pense qu'on a tous été baignés par la radio, on a tous découvert des choses, on a tous vécu des expériences, en quelque sorte, des expériences immersives, quoi, rien que par cette radio. Et donc, je pense que c'est très important, d'autant plus qu'on axe de plus en plus les compétences des élèves sur l'oralité. Donc, montrer justement que c'est quelque chose d'assez exigeant, qu'il faut s'entraîner, ça va dans le bon sens. Enfin, moi, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui les prépare très bien aux exigences du lycée.
Est-ce que vous, à titre perso, vous écoutez des podcasts ou des émissions radio sur l'histoire ?
Alors, j'en ai écouté beaucoup auparavant, quand j'étais étudiant. Maintenant, c'est vrai qu'avec YouTube, c'est différent. C'est une autre forme aussi de s'informer. Mais c'est vrai qu'il y avait des émissions phares que j'écoutais régulièrement, qui me plongeaient également dans un univers et qui me faisaient découvrir énormément de choses, notamment sur France Inter. J'ai beaucoup écouté cette radio.
Et du coup, est-ce que ça impacte votre façon de travailler le contenu avec vos élèves ?
Alors, ça impacte pas beaucoup le contenu, puisqu'en fait, le recours aux émissions de radio ou aux podcasts, j'y ai pas trop recours pour concevoir mes cours. Je m'appuie beaucoup sur la vidéo, en fait. Il y a souvent des vidéos qui sont étudiées en classe et qui servent aussi d'appui aux cours.
Parce que vos élèves, on a constaté sur les deux émissions qui font pourtant à peu près la même durée, mais dont la deuxième, celle qu'on vient d'écouter ensemble, est enrichie de tout l'habillage, donne une perception plus courte, parce que justement, on est captivé par des images mentales proposées par l'habillage. Du coup, ça vous a donné quoi, ce retour des élèves sur la perception du temps, qui est pourtant le même, mais qui paraît plus court quand on ne s'ennuie pas ?
Enfin, c'est assez immersif, en fait, dans cette ambiance, d'accord, des années 30. Ici, c'était sur les JO de Berlin. Je trouve que, oui, du coup, le temps passe pas pareil, d'accord. C'est surtout ça, en fait. La première émission, où c'était vraiment que il n'y avait pas d'habillage sonore, c'était plus compliqué, en effet, pour maintenir pour eux l'attention. Mais là, ça permettait, justement, d'avoir des respirations et de se calmer aussi, de travailler plus l'attention.
10 minutes, c'est pas très long, mais une élève a eu cette espèce d'autocritique de juger cette perception du son par des habitudes d'écoute. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on scrolle et puis on s'informe, entre guillemets, avec des contenus audio très courts qui ne dépassent pas l'ordre de quelques minutes. S'informer, ça prend du temps ?
Bien sûr, ça prend du temps et c'est une véritable préoccupation, justement, puisqu'on constate que la concentration et l'attention de nos élèves a tendance à diminuer, notamment en classe. C'est vrai que les journées sont parfois longues, mais on le voit également que même quand on propose des activités où ils sont acteurs, en fait, ou même que ça leur plaît, on voit que cette concentration, elle est quand même limitée. Donc c'est un véritable travail, hein. En effet, l'écoute, il faudrait qu'on les forme davantage à ça.
L'information par les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup, malheureusement, les fake news. Est-ce qu'avec vos élèves, vous travaillez justement sur d'où viennent les images, les recherches inversées par images pour se documenter sur la source et la première parution d'une iconographie dans un support ? Vérifier le vrai du faux, ça fait partie du boulot du prof d'histoire ?
Bien entendu, parce qu'on a aussi l'étiquette on est enseignant aussi d'EMC, je vais y arriver, pardon, l'enseignement moral et civique. Donc ça fait partie intégrante de nos programmes. Donc on s'y intéresse surtout aux réseaux sociaux, aux images, à la question des droits aussi, des libertés, en quatrième en fait. Donc c'est là qu'on aborde plus précisément les réseaux sociaux et leurs dangers, où on s'intéresse également à ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, puisque contrairement à ce que pensent beaucoup d'élèves, c'est pas parce qu'on est dans un espace virtuel que c'est un espace sans loi. Donc voilà, c'est l'occasion en quatrième de leur rappeler. En troisième, c'est un peu plus utilitariste, puisque on va dire que l'histoire-géographie, l'EMC, c'est une matière au brevet. Donc on va surtout utiliser, en effet, pour qu'ils recherchent des informations. On va les faire travailler davantage sur les moteurs de recherche, sur leur fonctionnement et sur les mots-clés qu'il faut trouver pour pouvoir trouver de manière beaucoup plus efficace, en fait, l'information recherchée.
Comment vous les rendez compétitifs, vos élèves, en sport, justement?
Alors, pour les rendre plus compétitifs, ils ont déjà cet esprit-là en section sportive, si on parle de la 3e C. Ils ont déjà cet esprit de compétition, notamment pour les rugbymen qui passent des tests, puisque en fait, s'ils veulent poursuivre l'activité à un niveau un peu professionnel, il faut qu'ils soient pris par l'académie. Donc ça met en effet, ils ont déjà une forme de pression. Après, cette pression, elle n'est pas autant scolaire, voilà. Mais la pression, elle se fait naturellement, troisième, autour de l'orientation, autour de l'examen du brevet.
Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir joué collectif sur la réalisation de ces deux émissions avec vous sur l'histoire?
Alors, je pense que ça a été collectif, bien qu'il y a toujours tendance justement à se regrouper entre copains, comme dans la classe en quelque sorte. Après, les groupes sont de plus en plus imposés. Donc, je tiens notamment particulièrement à la mixité, qui est autant de garçons et de filles dans chacun des groupes. Et pour autant, c'est assez bien accepté par les élèves. On voit qu'il y a quand même relativement une bonne ambiance. Et je pense que ce travail, en fait, coopératif, il participe aussi à l'amélioration de l'ambiance de la classe.
D'autres choses à rajouter sur la production de vos élèves ou les deux émissions que vous avez réalisées cette année?
Je suis fier, en fait, de ce qu'ils ont fait. J'ai vu à travers leurs réactions qu'eux-mêmes en ont retiré beaucoup de fierté, d'accord, de ce qu'ils ont produit. Maintenant, j'aimerais justement que ça soit une forme de leçon et qu'ils cultivent un peu ce goût de l'effort pour pouvoir toujours plus s'améliorer, en fait.
Merci de nous avoir présenté le travail mené avec vos élèves cette année au collège Simone Veil de Montpellier.
Merci à vous, c'était une expérience très enrichissante.